Bien, bonjour à tous, merci de votre présence, ça fait plaisir de voir que sur toutes les places il y a du monde pour écouter les écrivains. Bienvenue à vous pour cette rencontre en compagnie de Patrice Pluyette. Bienvenue à toi mon cher Patrice, très heureux de te retrouver pour la publication de ce nouveau livre qui s'intitule « La vallée des 10 000 fumées » dont on va évidemment parler en détail pendant cette conversation. Tu as publié à ce jour 6 romans, si je ne me trompe, 7, donc je me trompais avec 6. 7 romans, tu as été d'abord édité chez Maurice Nadeau, et puis ensuite donc au Seuil dans cette collection Fiction et compagnie, des titres comme La traversée du Mozambique par temps calme, plus récemment La fourmi assassine, on reparlera peut-être de ces livres-là. Et puis donc ce livre, La vallée des 10 000 fumées, qui est un roman dans lequel tu mets en scène un personnage qui est âgé de 75 ans, qui se réveille d'une longue absence, d'une longue immobilisation, sans qu'on sache réellement de quel ordre elle était, mis à part une jambe cassée. C'est un personnage qui finalement renaît à la vie comme un enfant, et que tu vas suivre dans sa redécouverte du monde, à la fois dans un périmètre d'abord très restreint, celui de l'appartement, de l'extérieur, petit à petit, comme ça, une découverte du monde, avec en point de mire cette vallée des 10 000 fumées en Alaska, où ce monsieur Henri souhaite se rendre. On va voir que le périple s'arrête un peu avant l'Alaska. Mais en tout cas, on va suivre ce personnage qui, me semble-t-il, dit un certain nombre de choses. D'abord, une dimension presque initiatique, c'est-à-dire c'est un roman de formation au sens strict du terme, puisqu'on a affaire à un personnage presque vierge, d'une certaine manière, malgré son âge. Et puis, une réflexion sur l'aventure, peut-être sur l'ailleurs, sur l'inconnu, qui, me semble-t-il, est au cœur du livre. Et puis, enfin, quelque chose qu'on lit presque en filigrane du livre, mais qui est aussi tout à fait passionnant, c'est la manière dont, finalement, cette redécouverte du monde peut-être correspondre à une vision de la littérature, la manière dont la littérature redécouvre, réexplore, réinvente le réel et peut-être le réenchante. Voilà en tout cas peut-être les points que je souhaiterais aborder avec toi pendant cette conversation. Peut-être question très, très, très simple sur le tout début du livre, hein, cette idée de la naissance ou de la renaissance. L'idée c'était ça, c'était vraiment de reprendre un personnage... Je disais vierge, je ne sais pas si le terme est bien choisi, mais en tout cas, un personnage qui, voilà, qui démarre, qui débute et qui recommence d'une certaine manière. C'était ça vraiment le levier de départ autour de ce personnage.
Alors, ça marche ? Ouais. Le personnage de Monsieur Henri, je l'ai créé il y a un peu moins de 20 ans. Et je l'ai utilisé d'abord dans un texte qui s'appelait Entre autres choses, qui a été publié dans un magazine qui s'appelait Écrire aujourd'hui, qui n'existe plus, c'était un magazine de poésie. C'était en 99 ça. Ensuite, je l'ai réutilisé dans mon premier livre en 2001, dans une nouvelle. C'était un personnage un peu bouc émissaire, un peu maladroit, un anti-héros. Et puis je l'ai gardé sous la main, après j'ai commencé à écrire des histoires plus longues, des romans, et j'ai gardé ce personnage sous la main. C'était un peu un double fantasmé, un double littéraire, enfin un personnage qui me plaisait beaucoup. Et l'idée de ce livre m'est venue, alors comment vient une idée de livre, c'est compliqué, ce livre je l'ai mûri en 10 ans, enfin pendant 10 ans au moins je l'ai mûri. Alors au début, il y a l'attrait pour la nature, l'envie de faire quelque chose autour de la nature, de la botanique, du naturalisme, pas le naturalisme en tant que genre littéraire, mais le naturalisme, les naturalistes, quoi, les scientifiques. Voilà, je ne savais pas trop, quelque chose aussi d'un peu d'encyclopédique, une envie d'écrire un livre qui parle de tout, qui parle du monde, un projet un peu fou, qui correspondait bien au roman, beaucoup plus qu'à la poésie. Voilà, j'ai écrit d'autres livres entre-temps, et en fait, l'écriture, c'est un peu comme un transit, c'est-à-dire que vous avez à l'intérieur de vous des envies qui sont de plus en plus urgentes. Alors, celle qui est très urgente, c'est le roman que vous écrivez, celle qui est un peu moins urgente, c'est le roman d'après. Et puis, les romans suivants, ils sont encore plus bas, quoi, et ça sort comme ça. Et lui, donc, il était tout en bas, et puis il est remonté, et à mesure qu'il remontait, j'ai inventé d'autres personnages et tout, et là, Monsieur Henri, je me suis dit quand même, c'est un super personnage, quoi. Enfin, j'ai des choses à dire sur lui. Et puis, j'avais écrit un premier roman qui s'appelait Roll Mops en 2000-2001, dont il était le personnage principal. C'est un premier roman qui n'avait pas été publié. Et les éditions de Minuit l'avaient repéré, on avait travaillé ensemble et tout. Et moi, je m'étais beaucoup amusé à l'écrire. Enfin, on ne s'amuse pas quand on écrit, mais il me plaisait, quoi. Et alors là, voilà, là, il ressort, flagrant, il me saute au visage, il hurle de le prendre, quoi, comme un casting, quoi. Prends-moi, prends-moi. Alors, bon, je l'ai pris. Et voilà. Alors, la découverte du monde. Donc voilà, en fait, ce qui était bien avec ce personnage, c'est que je savais que c'était un personnage naïf, décalé, un peu lunaire, un peu innocent. Et moi, je savais que j'avais envie de créer un livre encyclopédique, un livre qui aurait l'ambition de parler de tout. Donc je me suis dit, bah voilà, mon personnage, je vais en faire un naïf, un innocent, une sorte de Bouvard et Pécuchet, qui est curieux de tout, qui veut tout apprendre comme un enfant. Et à travers lui, je vais peut-être arriver à parler d'un monde totalitaire, un monde où je peux tout mettre, un monde encyclopédique. Donc en fait, tout se goupillait bien. Et en plus, si ma réponse est trop longue, tu me dis.
Ah, mais je t'en prie, on est là pour t'entendre.
Et en plus, j'avais, en même temps que j'ai commencé à écrire ce livre, de par mon attirance pour la botanique, pour les explorations scientifiques et naturalistes, je me sentais très très attiré par le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, mais une aimantation. Et donc ça se goupillait bien, j'avais mon personnage, j'avais mon histoire, et j'avais cette institution, et j'avais donc aussi la possibilité d'avoir de l'argent qui rentre, parce que l'Île-de-France propose des résidences Île-de-France avec des institutions. Donc j'avais tout pour pouvoir écrire ce livre. Et voilà, donc j'ai fait cette résidence, et c'était extraordinaire. Et alors, ce que je raconte n'a rien à voir avec le muséum. D'ailleurs, les scientifiques à qui j'ai envoyé mon livre, au début, quand ils l'ont reçu, ils m'écrivaient « Ah, j'ai hâte de savoir ce que tu as gratté sur l'institution. » Bon, les mecs, c'est des scientifiques assez carrés. À mon avis, ils ont un peu dû halluciner quand ils ont lu mon livre, parce qu'il est quand même assez loin du muséum. Mais moi, j'y ai grappillé beaucoup d'informations, beaucoup de mots, de noms. J'avais mon carnet toujours avec moi et je notais, j'étais à l'affût du moindre mot, de plantes, de roches. J'ai rencontré des gens extraordinaires, des passionnés, notamment quelqu'un qui s'appelle François Farge, qui est géologue. Les géologues, c'est des gens qui sont fascinants. Les géologues, ils ont tout compris. C'est les plus grands savants du monde, les géologues. Et des gens, en plus, qui m'ont très bien accueilli et qui étaient contents d'avoir un écrivain, quelqu'un qui ne soit pas scientifique. Et pour le coup, moi, je ne suis absolument pas scientifique. Mais la science m'a attiré énormément. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que de livre en livre, je recherche et j'explore la question de l'aventure et du rêve. C'est ça qui, pour moi, est à l'œuvre dans le roman. Depuis l'Odyssée, c'est l'aventure, le voyage. Ça, vraiment, ça m'habite de plus en plus, aussi bien dans mon travail d'écriture que dans mes lectures. Et après avoir étudier l'aventure comme genre littéraire dans La traversée du Mozambique par temps calme, où là, c'est vraiment j'ai pas voulu faire de parodie, mais c'est quand même un peu une sorte de, ça tourne autour du genre littéraire. Là, j'ai voulu me lancer dans l'aventure en tant que science, c'est-à-dire des aventuriers, des explorateurs, des géologues, des botanistes, des volcanologues, des gens qui partent à l'aventure, non pas pour chercher des trésors ou comme aujourd'hui pour faire des défis sportifs, mais qui partent à l'aventure pour comprendre le monde, comprendre comment ça marche. Par exemple, Horace Bénédict de Saussure, qui est un géologue suisse du XVIIIe siècle, il a escaladé le Mont Blanc pour la première fois en 1787. Et bon, maintenant, quand on escalade le Mont Blanc, c'est des équipes de sportifs avec des combinaisons en néoprène, enfin en terre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et alors lui, il a escaladé avec des moufles, des pantalons de laine et des draps, quoi. Et surtout, c'était pas du tout l'exploit qui l'intéressait. C'était d'essayer de comprendre ce qu'il y avait en haut, la roche qu'il y avait en haut, et essayer d'avoir une vue du haut du Mont Blanc, une vue sur les Alpes, pour essayer de comprendre l'agencement et la façon dont les Alpes étaient faites. Pour comprendre, du coup, parce que selon lui, la formation des Alpes était à l'origine de la formation du monde. Enfin bon. Donc il y avait une vraie quête poétique et d'absolu en fait, chez les explorateurs, que je trouve qu'il n'y a plus vraiment aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tout a été découvert. À part le fond des mers, tout a été découvert. Ça s'est terminé au début du XXe siècle avec les pôles, avec Dumont d'Urville, Charcot. Bon, on a découvert les pôles. Il y a eu l'Australie avant, James Cook, François Perron, et après il y a eu les pôles. Et après les pôles, bah, on avait tout découvert. Et donc il ne reste plus que les fonds marins maintenant. Mais du coup, mon personnage, j'avais envie de lui donner la personnalité d'un explorateur de l'ancien temps, justement, de ce temps où le monde était à découvrir pour la première fois. Et c'est pour ça qu'il n'a pas d'instrument de navigation très développé, qu'il a des baromètres un peu des boussoles foireuses, qu'il escalade le Mont Blanc, pour le coup, vraiment à la manière d'Horace Bénédicte de Saussure, c'est-à-dire avec des chaussures à clous, avec un bâton de frêne, avec un manteau de laine. Bon, parce que je voulais couper en fait la modernité qu'il y a aujourd'hui, avec toute la connexion, les GPS, pour revenir à la découverte primale du monde, de la même manière que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, que Amerigo Vespucci a cartographié l'Amérique. Enfin, c'est des gens qui, c'était pour moi, c'était vraiment des vrais aventuriers. Et aussi, à travers ces aventuriers-là et leurs écrits qui m'ont passionné et que j'ai lu pendant toute la durée de l'écriture de mon livre, je trouvais dans leurs écrits, alors que ce sont des scientifiques, pour moi, c'est vraiment de la littérature ce qu'ils font. Il y aurait un genre littéraire à inventer. Par exemple, James Cook, ses relations de voyage, Darwin, voyage d'un naturaliste autour du monde, eh ben, ils ont une telle manière de décrire le monde comme si c'était la première fois que pour moi, ce sont des poètes, vraiment. Et ce regard-là, il m'a habité et il m'a accompagné pendant toute l'écriture du livre, à la fois cette aspiration vers l'extérieur, vers l'inconnu, comme Monsieur Henry, hein, qui est un aventurier raté, mais qui se rêve aventurier et qui se rêve de partir dans la vallée des 10 000 fumées. Et en même temps, l'aspect poète, regard neuf sur le monde. On découvre le monde comme si c'était la première fois. Et aujourd'hui, c'est une gageure, parce que les gens sont un peu blasés aujourd'hui. Il y a la télé, il y a tout. On a l'impression que tout est déjà... Et je voulais, du coup, comme un roman, ça marche un peu par tension, je voulais créer d'une part une tension entre le fantasme d'une grande aventure et la réalité d'une aventure finalement pas si fantasmée que ça, hein, parce que M. Henry fait juste un petit voyage de retraité en France. Et la tension entre une époque aujourd'hui surdéveloppée et là, l'écriture d'un monde un peu originel, primal.
Une petite chose peut-être, je vais lire un tout petit extrait qui est la fin du premier chapitre, et puis j'aimerais bien t'entendre sur une phrase en particulier, parce qu'il me semble qu'il y a là quelque chose de très intéressant sur la manière dont on redécouvre le monde. Donc, c'est le tout début du livre, en tout cas la fin du premier chapitre. Le voilà à présent qui se lève, se relève d'abord sur les coudes, puis en position assise, marche sur les lames du plancher qui se courbent et craquent sous le poids pas bien lourd du personnage, lequel, à la suite d'une chute de toit sans gravité et d'un alitement prolongé, aurait pris conscience d'avoir vécu sa vie sans la vivre, de regarder sans rien voir, d'être sans trop y être, et qu'il devait se réveiller une fois pour toutes, perdre volontairement la mémoire de son identité et de ce qui l'entoure, afin de redécouvrir les origines de sa présence au monde. Il fonce vers l'avenir en pyjama, ne traverse la pièce que lentement car il cherche son équilibre, la direction à suivre, animé pour autant d'un fort désir d'aller chercher quelque chose quelque part, le plus loin possible. Et j'aime beaucoup cette phrase qui est « perdre volontairement la mémoire de son identité et de ce qui l'entoure afin de redécouvrir les origines de sa présence au monde. Ça veut dire que c'est aussi un personnage qui est débarrassé de ses oripeaux sociaux, de son passé, de sa mémoire, de ses carcans. Est-ce que c'est comme ça que tu envisageais ça ?
Non, pas tellement. En fait, cette phrase, je l'ai mise à la fin. Elle est au premier chapitre, mais je l'ai mise à la fin. Parce qu'avec mon éditeur, on a discuté. Et au début, moi, je n'expliquais pas pourquoi il redécouvrait le monde. Je l'envoyais comme ça sur la scène et je, voilà, il redécouvrait le monde. Et mon éditeur, on a discuté, il m'a dit ce serait bien de, quand même de trouver un point de départ concret. Parce que les gens vont se demander pourquoi il redécouvre le monde. Et c'est là que j'ai eu l'idée de cette chute de toit. Et de cette petite phrase. Mais cela dit, oui, c'est pas anodin, parce que moi, Monsieur Henri, quand je l'ai écrit, je savais rien de lui, et on sait rien de lui. En fait, il repart à zéro. C'est même le lecteur, il repart à zéro devant ce personnage. Il sait pas qui il est. Un journaliste qui a marqué que je réinventais le vieil Adam, mais c'est un petit peu vrai en fait. Quand j'écoute ça, je me dis que c'est un peu comme Adam, quoi. C'est-à-dire la naissance du premier homme. Et j'avais envie de, comme je parlais d'un livre initiatique, alors sur le coup, je pensais pas que j'écrivais un livre initiatique. Hein, c'est juste à la fin que je me suis dit que c'était un livre initiatique. Mais comme je parlais d'un livre à ça vraiment progressif. Ça, je le sentais, que c'était progressif. Il fallait qu'il se réveille dans une chambre noire et que, petit à petit, il ouvre les yeux, qu'il tâtonne, qu'il se lève, qu'il marche. Que l'histoire commence, en fait, à travers ce mouvement-là. C'est toute l'histoire, toute la mécanique qui se met en branle. Voilà. C'est, de tous mes livres, c'est le départ le plus lent.
Oui, avec en même temps cette idée de nommer les choses, ou en tout cas d'essayer de circonscrire. On reparlera de lui, la manière dont il travaille autour des termes, autour des lexiques, etc. Mais finalement, c'est l'opération de l'écrivain ici. Le fait de mettre un pas n'est pas seulement de marcher, c'est la lame qui craque et qui ploie. Et il y a l'idée quand même d'aller chercher dans la littérature une manière de circonscrire les choses, ou en tout cas de les nommer avec le plus de précision, je ne sais pas si on doit dire ça.
En fait, tous mes livres sont une question à la littérature. Si mes livres n'interrogent pas la littérature, ça ne m'intéresse pas. Quand je commence un livre, l'histoire va m'intéresser, mais si ça n'interroge pas la littérature, si à mon petit niveau, ça ne fait pas avancer dans ma tête les questions que je me pose sur la littérature, ça ne m'intéresse pas. Et ce livre-là, il interrogeait la perception du monde. Et la perception du monde à travers la littérature, une perception du monde technique en fait. Et en fait, à travers Monsieur Henri qui lui-même s'émerveille du monde et redécouvre le monde, en fait, c'est vrai que c'est l'écrivain et c'est le poète, comme je disais tout à l'heure, voir les choses avec un œil neuf, qui découvre le monde et qui perçoit le monde et qui le nomme. La question, c'est comment nommer le monde, parce que Monsieur Henri, quand il commence dans l'histoire, il connaît pas les mots non plus, parce qu'il fallait que je lui fasse connaître les mots, découvrir la lecture. Alors, je me suis demandé aussi, est-ce qu'il faudrait pas mieux prendre un enfant, du coup ? Mais non, parce que un enfant, il ne redécouvre pas, il découvre. Je trouvais ça plus pertinent que ce soit un homme âgé et qu'il redécouvre. Parce qu'il prend conscience qu'il redécouvre, alors qu'un enfant qui découvre, il ne prend pas vraiment conscience qu'il découvre, puisqu'il découvre. Et du coup, Monsieur Henri avait un cerveau d'adulte, donc c'était plus pertinent. Ça me permettait, moi-même, en tant qu'écrivain, d'avoir mon cerveau à peu près au même niveau que lui, pour lui faire découvrir les choses en même temps que moi, je les découvrais. Et donc, il découvre les mots, il découvre les phrases. Et d'ailleurs, à un moment, je mets qu'il devait déjà savoir lire parce que la lecture lui revient assez vite. Oui, parce que je n'allais pas faire des pages sur le réapprentissage de la lecture et tout. Bon, ça aurait été un peu fastidieux. Donc, j'ai mis que la lecture lui revenait assez vite. Et après, il est pris d'une soif de connaissances, de mots. Il engrange tous les sujets possibles. Il y a un passage que peut-être tu vas lire ou que j'aime beaucoup. Où il passe d'un sujet à un autre, un peu comme dans Bouvard et Pécuchet. Moi, Bouvard et Pécuchet, c'est mon livre de chevet, et je pense qu'il y a un peu de ça derrière. Et il passe d'un sujet à un autre, de l'histoire naturelle, lui fait passer à l'étude des dinosaures, enfin, puis il se lasse très vite, alors il passe à autre chose, tout ça, enfin, il engrange, quoi. Et il tombe sur des mots, alors, je ne me souviens même plus du mot, quoi. Et justement, parce que c'est des mots très rares, imprononçables, mais qui existent. Et moi, bon, en tant qu'écrivain, j'aime bien, dans chacun de mes livres, faire ça. J'aime bien mettre un livre, un mot rare, derrière une vitrine. Peu importe qu'on le comprenne ou pas, ça ne change rien du tout à l'histoire, mais j'aime bien, un peu comme un archéologue, quoi, mettre le livre derrière une vitrine et mettre des petites lumières, comme on mettrait une pierre précieuse derrière une vitrine. Et donc, monsieur Henri, il découvre les mots. Et moi, bon, un livre, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la question de... Un livre pose la question de la littérature, mais il pose aussi la question du langage. C'est-à-dire qu'un livre, c'est d'abord le langage, pour moi. Évidemment, hein, sinon ce ne serait pas un livre. De la même manière que pour moi, le cinéma, c'est avant tout une image. La BD, c'est avant tout le dessin. Et un livre, c'est la langue. Et donc, moi aussi, évidemment, j'aime bien rechercher non pas le mot rare, mais le mot juste, le mot précis, comme tu disais. Et puis, jouer sur les rythmes de phrases, accélérer, ralentir. J'ai trouvé d'ailleurs que dans celui-là, j'ai essayé de faire des phrases plus lentes, moins tordues que dans le précédent, qui était un roman policier un peu alambiqué, où les phrases se mordaient un peu la queue, où... comme des palinodies, enfin des phrases qui se contredisent, dont la fin contredit.
Mais c'est une forme de simplicité qui est en adéquation avec finalement ce voyage très simple, ou en tout cas la simplicité des situations. Il y a quelque chose qui est en adéquation avec ça finalement. La langue, le rythme de ton écriture, il dépend aussi peut-être de cela.
Oui, je voulais écrire un livre simple, parce que on fait toujours le reproche d'écrire des livres un peu exigeants, un peu pour public cultivé. On m'a dit ça, Maurice Nadeau, c'est ce qu'il m'avait dit. Il m'avait dit un jour, j'étais chez lui dans son bureau, il m'avait dit, est-ce que vous savez, il avait 103 ans hein, à l'époque, il travaillait plus qu'un jour sur deux. Hein.
Et, 12 heures par jour.
Non mais vraiment, il m'avait dit, vous comprenez, maintenant je travaille plus qu'un jour sur deux, je vais sur mes 104 ans. Et donc j'étais dans son bureau, on s'était pris une bière et tout, il avait fait un peu de gym, il aimait... Devant moi, il aimait, comme j'étais très jeune, j'avais 25 ans ou 26 ans quand j'étais avec lui, il aimait bien jouer aux jeunes. Et il me dit, est-ce que vous savez pour qui vous écrivez? Alors je dis, bah non. Et il me dit, vous écrivez pour un public cultivé. Bon, moi je pense pas, hein. J'essaye pas de faire ça, j'essaye pas de c'est pas ce que je recherche, mais bon, je lui fais confiance, il a dit ça. Et donc, en plus, je sortais du précédent livre, et le livre était assez compliqué, l'histoire, c'était une série de parallèles, de trucs, j'avais eu des échos comme quoi certains lecteurs avaient été un peu perdus. Bon, j'avais envie du coup d'écrire un livre accessible. Mais toujours avec une exigence de phrase, parce que ça, on ne se refait pas, quoi. La phrase, c'est la phrase. Et du coup, il fallait que l'histoire soit simple, linéaire, et un petit peu lente, à tel point que, bon, moi, j'ai écrit ce livre... évidemment, quand on écrit un livre, on ne sait pas du tout l'effet que ça va faire, et s'il va plaire et tout, mais bon, moi, quand je l'ai écrit, je sortais d'une période personnelle pas très facile et tout. Bon, je l'ai écrit dans mon coin, j'habite en Bretagne, bon, j'ai une petite maison au bord de la mer, bon, et une vie très simple, très calme. Et je l'écrivais, et vraiment, je l'écrivais, et je disais à ma femme, mais c'est nul, ça va pas plaire, c'est lent, il n'y a pas de péripéties et tout. Et bon, alors, bien sûr que non, hein, ça plaît et c'est pas lent, il y a des péripéties. Mais non, je dis ça parce que sinon personne ne va l'acheter.
Bien, bien rattrapé.
Ouais. Et, Non, mais c'est pour dire que ça détonnait avec ce que j'avais fait avant. Enfin, je sentais que c'était plus posé, moins hystérique. Un été sur le Magnifique, par exemple, pour moi, c'est un roman hystérique. C'est un roman que j'ai pris en buvant du café à la Villa Médicis. J'étais entouré, j'étais sollicité. J'ai pris du café et que ça. Et je l'ai écrit un peu comme ça, en état de nervosité. Bon. Alors lui, pas du tout, quoi.
C'est un roman tisane, plutôt.
Ouais, voilà. Ouais, ouais, c'est un roman tisane. Ouais. Mais tisane d'après-midi, tu vois. Bon, un peu, c'est... Non, parce que vraiment, les gens, là, ils vont pas...
Peut-être on peut revenir sur une chose.
Envie, hein.
Je dis ça en plaisantant, évidemment, oui, tu sais à quel point j'aime ce livre. Y a une chose aussi que tu évoquais tout à l'heure, qui est cette question de la connaissance par les livres. Ton roman, il dit aussi ça, c'est-à-dire la confrontation, tu parlais de tension tout à l'heure, entre la connaissance du monde par les sensations, par le corps, par l'ancrage physique dans le monde, et la connaissance par les livres. C'est aussi une réflexion là-dessus, me semble-t-il, ou en tout cas un regard porté là-dessus. Comment est-ce qu'on connaît le monde, y compris de manière encyclopédique, par les livres, par les mots, par le langage, et comment est-ce qu'on l'éprouve ? Parce que c'est aussi un livre de sensations, à proprement parler, de présence au monde, comme je l'ai lu tout à l'heure dans l'extrait.
Oui, surtout comment le personnage s'émancipe des livres. Mais alors ça, c'est, je crois que c'est un enjeu un peu personnel. C'est-à-dire que d'abord, il apprend le monde à travers les livres. Un peu comme Don Quichotte. Il lit les livres, et puis après, il part. Bon, j'avais pas lu Don Quichotte quand j'ai écrit le livre. Je l'ai lu à la fin du livre. Parce que je sentais qu'il y avait un peu une connivence entre les deux personnages, Monsieur Henri et Don Quichotte. Je savais vaguement de quoi Don Quichotte parlait. J'avais lu des extraits. Je me suis dit, non, faut pas que tu lises Don Quichotte, parce que ça va te démoraliser, parce que tu vas te rendre compte qu'il a écrit le livre que tu voulais écrire, quoi. Donc ne le lis pas. Bon. Et Monsieur Henri, c'est un petit peu ça. Il commence par les livres, un peu comme un cocon, et puis et après, il va vérifier si dehors, c'est pareil que dans les livres. Donc il lit des choses sur les dinosaures. Les montagnes, sur les volcans, et puis il sort dans son jardin et puis il voit pas de dinosaures, il voit pas de montagnes, il voit pas de volcans. Donc c'est ça aussi qui va lui donner envie de partir. Et pendant tout le livre, le personnage, il ose pas s'éloigner d'abord de sa maison, enfin d'abord des livres, après de sa maison, un peu comme un enfant qui n'oserait pas s'éloigner de sa maman ou d'un personnage qui n'oserait pas trop. Il a un côté un peu, monsieur, il a un côté un peu. Un peu malade, un peu mental. Enfin, ma femme, elle est psychologue et elle y a trouvé un côté un peu autiste à Monsieur Henri, un côté autiste Asperger, il a une hypersensibilité, il capte tout, il sent tout et du coup, ça l'angoisse terriblement et il n'ose pas aller vers le monde, mais en même temps, il est très intelligent et du coup, il ressent les choses très fortement et il exprime et il veut tout comprendre sur le monde. Et c'est pour ça que ça passe d'abord par les mots. Mais très franchement, pour répondre à ta question, est-ce que la question à savoir si le livre est une question de connaissance à travers les mots, à travers la sensation, c'est vrai qu'il y a les deux, il y a aussi la connaissance de la sensation. Mais là, je crois que ça fait appel à quelque chose de trop personnel pour que j'essaye d'en parler, pour que j'arrive à en parler. Je n'arrive pas à prendre du recul et à théoriser ça. Je crois que moi-même, j'ai un peu le même problème que M. Henri. Enfin, il y a un mélange entre ce que je lis, ce que je vis, ce que je ressens. Parfois, je mélange, je ne sais plus si ce que j'ai vécu, je l'ai lu ou je l'ai imaginé ou si je l'ai vraiment vécu. Enfin, par exemple, je me souviens de personne, je ne sais plus si je les ai rencontrés en vrai ou si je les ai imaginés. Enfin, c'est un peu bizarre. Et du coup, M. Henri, il flotte un peu là-dedans. Et donc, évidemment, ça interroge la question de la fable, ça interroge la question de la littérature, ça interroge la question de la vie, parce qu'il y a quand même un moment où il prend vraiment confiance en lui, à la fin, où il met complètement de côté ses connaissances, ses livres, Il veut désapprendre tout ce qu'il a appris. Ça, c'est peut-être aussi l'écrivain qui a lu beaucoup et puis qui met tout ça de côté pour essayer de voler de ses propres ailes en tant qu'écrivain. Hein, c'est peut-être aussi ça. Mais... Et là, il prend confiance en lui et il avance. Et donc, il va escalader le Mont Blanc. Et là, là, pour le coup, j'ai affaire, autant jusqu'à maintenant, j'avais créé un anti-héros. Et là, j'avais affaire à un héros. J'avais affaire à quelqu'un qui escaladait le Mont Blanc, quoi. Tout le monde ne peut pas le faire. Et qui volait de ses propres ailes. Donc là, il avait coupé le cordon ombilical et il était dans la vie. Il n'y avait plus de connaissances, il n'y avait plus de livres, il n'y avait plus de recherche de mots. Les phrases sont assez simples, ça coule. On est dans la vie, on avance, on veut atteindre le sommet du Mont Blanc, exactement pour la même raison que Saussure, pour comprendre l'existence, pour essayer de voir si là-haut, il n'y a pas la vérité. Parce que M. Henri, il cherche la vérité de la vie. C'est un philosophe, en fait. Il cherche à comprendre le monde. Et il va passer par la science, par les explorations naturalistes pour ça.
Tu parlais de Don Quichotte. Pour le coup, Monsieur Henri, il n'a pas un Sancho, mais deux. Peut-être tu peux nous parler aussi de ce compagnonnage, en tout cas de la manière dont tu as travaillé aussi autour de ce trio, finalement, qui parcourt la France. Comment est-ce qu'ils s'inscrivent finalement dans sa trajectoire à lui, ces deux personnages-là ?
Alors, ils sont venus très... ils ont mis du temps à arriver dans mon processus. Au début, moi, j'ai écrit Monsieur Henri tout seul. Il est tout seul pendant presque 100 pages. Hein. Le médecin arrive... En fait, le médecin arrive au moment où Monsieur Henri pète un peu un câble. Au moment où il veut tellement tout savoir sur tout qu'il a un malaise, quoi. Il est dehors, il est dans son jardin, et en fait, il y a tellement d'informations, le ciel, le vent, les feuilles, la terre, l'herbe, la température, l'humidité. Mais vous savez que Alexander von Humboldt, l'explorateur allemand, il était comme ça. Il s'intéressait à tout quand il a voyagé dans l'Amérique du Sud avec Aimé Bonpland. Il était dans la jungle, il était debout, et il s'intéressait à tout. Il s'intéressait à la terre sous ses chaussures, au lombric sous la terre, aux feuilles au-dessus de lui, au ciel au-dessus de la feuille, au vent, à la lumière, à l'humidité. Enfin, il s'intéressait à tout. Sauf que lui, c'était un vrai aventurier, c'était un mec solide. Monsieur Henri, il est faible, il est fragile. Ça l'assomme, tout ça. Bon. Et donc, il fait un malaise. Il n'en peut plus, quoi. Son cerveau est trop petit pour ça. Parce qu'il essaye de faire des fiches pour noter tout ça. Un peu comme l'écrivain qui a plein d'idées et qui fait des fiches. Et donc il tombe dans les pommes. Et surtout qu'à l'époque, il essayait de devenir un aventurier en allant au bout de son jardin, et dans le froid, pour essayer de s'endurcir. Et il tombe malade en plus, parce qu'il prend des bains froids pour essayer de s'endurcir encore plus. Et donc il tombe dans le coma. Et là, c'est là qu'apparaît le docteur. Donc le docteur, en fait, il apparaît pour une raison narrative mécanique, c'est qu'il est malade, donc il faut un docteur. Et du coup, apparaît aussi la gouvernante, qui s'occupait de M. Henri, mais on ne le savait pas jusqu'à maintenant. On était focalisé sur M. Henri. La gouvernante qui veille sur M. Henri. Et un troisième personnage qui ne sert un peu à rien, mais je ne sais pas pourquoi, je l'ai inventé, qui s'appelle... le nouveau voisin. Et il sert un peu à rien, lui, et j'ai eu du mal, d'ailleurs, à leur trouver une raison d'être. Alors, la raison d'être du docteur, c'est que c'est un savant, donc il prend le contre... Parce que les personnages, on les crée par opposition et par contraste. C'est par équilibre. Le médecin, sa pertinence dans l'histoire, c'est que c'est un savant, quelqu'un qui connaît tout, donc... Il contrebalance l'ignorance de M. Henri, qui veut tout savoir, mais qui ne sait rien, en fait, parce qu'il est un peu particulier. Et le nouveau voisin, lui, c'est le bricoleur de la troupe. C'est celui qui conduit la camionnette, c'est celui qui dégote la camionnette, qui va chez le garagiste, c'est celui qui prend des photos avec son appareil, son téléphone portable, qui ne reçoit pas, qui ne capte pas, hein, mais... Bon, lui, c'est un peu le débrouillard, c'est un peu le manuel, en fait. Voilà. Donc, il y a le manuel, l'intello, et M. Henri, qui n'est pas du tout manuel, qui se prend pour un intello, mais qui ne l'est pas du tout. M. Henri, en fait, il comprend rien, en fait. Il ne comprend pas les choses. D'ailleurs, la théorie de Darwin, il ne comprend rien. Il est très intelligent, il est curieux, mais il est assez limité, quoi. Il est assez bêta. Un peu comme Bouvard et Pécuchet. Bouvard et Pécuchet, ils sont... Alors bien sûr, Bouvard et Pécuchet, hein, c'est un autre niveau. Hein, c'est un roman, je ne me mets pas au même niveau. Hein, c'est une grande, grande littérature. Mais Bouvard et Pécuchet, ils sont un peu ridicules. Quoi. Ils sont un peu bêta. Et ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. Ils vont au bout, mais c'est un peu pour se donner l'air qu'ils apprennent quelque chose. Mais M. Henri, c'est un peu ça. Il veut tout apprendre sur tout. Mais en fait, il veut juste en connaître un petit peu sur chaque chose. Quoi. Il touche à tout, quoi, mais il n'approfondit rien. Bon, voilà.
Peut-être, je vais dans un moment là, passer la parole au public, on peut aussi dire un mot d'une chose importante, c'est que l'auteur, le narrateur ou l'auteur, je ne sais pas comment il faut le dire, il est présent dans le livre. Il est présent à des endroits où il regarde même ses personnages en disant « là, c'est un peu tôt dans l'histoire » ou « là ». Donc, il y a une forme de présence et d'adresse au lecteur. Comment est-ce que tu envisages cette forme de transparence par rapport à la création des personnages ?
C'est marrant. Bon, moi, j'ai beaucoup lu le nouveau roman, l'école des éditions de Minuit. C'est vraiment ce qui m'a donné envie d'écrire. Enfin, non, pas vraiment d'écrire, mais ce qui m'a donné envie d'écrire des romans. C'est-à-dire, quand j'ai lu Echnoz, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je peux y arriver. Je ne ferai pas aussi bien, mais je peux y arriver. Et j'ai lu Chevillard, Beckett, Toussaint, Gailly. Et ce que j'aime dans le nouveau roman, alors j'ai lu aussi, je suis passionné aussi par ce qui n'est pas du tout le nouveau roman, hein, les classiques. Je suis passionné par Maupassant, par exemple, par Flaubert, la poésie. Bon, je suis passionné par beaucoup de choses, mais je dirais que c'est le nouveau roman qui m'a donné envie d'écrire des romans et qui m'a donné... j'allais dire mon style, mais j'ai pas de style, mais qui m'a donné un angle d'attaque. Et dans le nouveau roman, il y a la question que ce qu'on écrit, c'est juste un roman, quoi. Il y a la question que l'illusion est vaine. Dans le nouveau roman, on vous fait jamais totalement croire à ce qu'on vous fait lire. C'est juste du roman. Faut pas croire que c'est la vie, c'est du roman, quoi. Et ça, c'est un petit peu ce que je pense. C'est-à-dire que le roman, pour un romancier, pour moi, c'est un enchanteur. Vraiment. C'est quelqu'un qui enchante, qui est là pour faire rêver, pour rendre le monde merveilleux et pour que les gens qui lisent un roman vivent leur vie, mais en plus fort, en plus intense, en plus haut ou en plus bas, s'il s'agit d'une histoire noire ou violente, mais en tout cas en plus forte. Flaubert disait « lire, c'est vivre deux fois ». Alors, est-ce qu'il voulait dire deux fois quantitativement ou deux fois en intensité ? Je ne sais pas, mais moi, je dirais vivre deux fois en intensité. Vivre deux fois. Alors, pendant longtemps, j'ai eu tendance à casser, à chaque fois que je crée une illusion, à chaque fois que je crée le rêve, que j'en ai le lecteur quelque part, que je le prenais par la main, j'avais tendance à casser ça. En lui disant, attendez, vous emportez pas, c'est juste une histoire et tout. Bon, maintenant, je le fais un peu moins, parce que je me dis que peut-être ça peut un peu trop casser le truc, en fait. Que le lecteur, il est un peu comme un somnambule, et qu'il ne faut pas trop réveiller le somnambule. Faut aussi laisser, parce qu'une histoire, c'est beau, quoi. On s'en fiche de savoir que c'est juste une histoire. Donc, faut pas, maintenant, je le fais un peu moins, parce que c'est sympa que le lecteur se prenne au jeu. Mais je le fais quand même de temps en temps. Parce que j'aime bien. Et puis parce que. Mais ça remonte à loin, ça. Diderot, dans Jacques le Fataliste, il le fait. Hein. il fait du méta-commentaire. Là, bon, je lis un livre de l'Arioste. Pareil, il le fait. Hein, en fait, beaucoup de romanciers, depuis très longtemps, commentent ce qu'ils font. Je trouve ça assez intelligent et assez ludique. Je sais pas, ça me fait rire. Comme une sorte de... J'avais bien aimé le livre de Calderon qui s'appelait Le Grand Théâtre du Monde, où en fait les personnages sont dans un théâtre et puis vous avez l'auteur au-dessus qui ressemble un peu à Dieu, et puis Dieu est une marionnette, et puis l'écrivain c'est un petit peu ça, il a des marionnettes et puis il les manipule, il les fait jouer, bon. Et il y a un moment il faut rappeler un peu ça, ce côté ludique, ce côté artificiel de la littérature, enfin... J'ai fait un mémoire sur Ionesco, sur le théâtre de Ionesco, et Ionesco, il n'arrête pas de faire ça, il casse les codes tout le temps, il casse l'illusion, il casse... et en même temps, en faisant ça, il entraîne les lecteurs dans un jeu et dans une illusion. C'est ça qui est... Finalement, il retombe sur ses pieds. Mais... oui, en même temps, je pense aussi que... Mais ça, c'est assez nouveau, que... une histoire est belle en tant que telle, et tant pis si on se laisse tomber dedans et qu'on y croit dur comme fer, quoi. Tant pis. Ça, c'est assez nouveau, ça. Avant, je différenciais vraiment roman, il y a les romans, puis il y a la vie. Et maintenant, je me dis, bah non. Je vous dis, c'est au point que parfois, j'oublie si ce dont je me souviens, si je l'ai vécu ou si je l'ai lu, quoi. Maintenant, je m'en fiche.
C'est très intéressant d'entendre aussi ce que tu dis par rapport à ton atelier d'écriture, ou en tout cas à tes interrogations. Et ce qu'on entend, c'est que il y a aussi dans le parcours global de l'écrivain une remise en question permanente, ou en tout cas des doutes par rapport à ce que tu fais, à ce que tu as fait, à la manière dont tu veux faire évoluer ton rapport à la littérature. Tu as l'impression que ce mouvement-là, il est permanent et il est nécessaire finalement à la construction d'une œuvre de toujours reposer la question de ce que tu as fait dans le livre d'avant et de la manière dont tu l'envisages aujourd'hui en fonction de peut-être de tes lectures, de ta toi, de ton évolution personnelle.
Ah oui, à l'écriture c'est une remise en cause permanente. C'est un travail vraiment de souffrance, hein, presque. En fait, les moments où je suis heureux, c'est je me sens bien, c'est quand je suis à ma table et quand je crée, quand je crée, quand j'avance, quoi. Je suis bien, mais en même temps, je travaille, c'est dur. Et c'est un travail assez ingrat, l'écriture, parce que on remet toujours tout sur la table. Et moi, je cherche. Je suis un écrivain, c'est un chercheur, c'est quelqu'un qui cherche en permanence à comprendre ce qu'est la littérature, parce que la littérature, en fait, elle est immensément vaste, elle est changeante. Elle change en permanence, puisqu'elle se nourrit de la vie change, les époques changent, ça évolue. On n'en a jamais fini de comprendre la littérature et de la faire. Et soi-même, on change, donc on n'écrit pas de la même manière. C'est un laboratoire expérimental, quotidien, et moi, je ne m'ennuie jamais. C'est-à-dire que je suis à ma table... J'ai une vie très routinière où pendant 2-3 ans, je vais écrire pendant 2-3 heures par jour, mal rasé, en pull, robe de chambre, pas coiffé. Et des journées très routinières où je vais voir la mer, je reviens. J'ai une famille, heureusement, qui me soutient et qui me ramène à la réalité. Mais une vie très routinière, mais qui me rend vraiment, vraiment heureux et où j'ai l'impression d'être un aventurier, en fait. Un aventurier en chambre, parce que je tâtonne, j'explore, je crée, et je me surprends en fait tout le temps. Je me dis, en fait, quand je commence un livre, je sais pas du tout où je vais. Je me lance dans un voyage. C'est comme si je partais, par exemple, sur le Tibet. Je me dis, bon, je vais partir sur le Tibet, mais je sais pas comment je vais y aller, quoi. Je sais pas quel chemin je vais prendre. Alors je marche. Tiens, je vais aller là, puis là, puis là. Et en fait, c'est ça. Dans mon bureau, je erre. Mais avec une lampe frontale très intense pour bien voir où je vais, et puis je note, et puis c'est du travail, quoi. Mais oui, c'est une interrogation sans fin, un doute permanent. Moi, quand j'ai écrit ce livre, tous les jours je me disais, mais il est nul, et c'est parce que je me disais qu'il est nul que le lendemain je m'y remettais, quoi. Maintenant, alors pendant très longtemps, écrire m'a beaucoup angoissé. Et maintenant, écrire m'angoisse plus. Maintenant, écrire me fait plaisir. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis bien, quoi. Mais pendant très longtemps, je me mettais une pression quand j'écrivais. C'est-à-dire que quand j'étais devant mon bureau, j'avais les mains qui tremblaient, quoi. Comme un pianiste qui va se mettre à jouer devant 1000 personnes. J'avais peur de me retrouver face à moi-même, face à mon incapacité à écrire, face à toute cette histoire que j'avais dans ma tête, mais qui était un rideau noir jusqu'à maintenant. J'avais peur de mettre des mots dessus, de découvrir ce que j'avais à découvrir et peut-être de découvrir que je n'avais rien à découvrir. Enfin, il y a toujours la peur de se dire, ben, je ne vais plus réussir à écrire. Et maintenant, non. Maintenant, je suis heureux de créer. Je me mets devant ma table, j'allume mon ordinateur et puis je m'enfonce dedans et puis je fais mon truc. Je fais un petit maillon chaque jour. Là, vous allez voir, j'ai une très bonne métaphore. Chaque jour, je fais un petit maillon. Donc ça peut être deux phrases, ça peut être un paragraphe, ça peut être une page, ça peut être deux pages. Mais il faut que ce soit un maillon. Ça peut être fait en une heure ou en deux heures. Et le lendemain, je relis un peu le maillon pour bien le fortifier. Et après, je fais un autre maillon. Et au bout d'un certain temps, ça fait une chaîne. La chaîne, elle fait tourner le vélo. Et le vélo, il avance.
Pas mal.
Pas mal, hein.
Dernière petite chose avant de donner la parole au public. Tu as évoqué tout à l'heure la traversée du Mozambique par temps calme en disant que tu avais essayé d'explorer finalement le roman d'aventure en tant que genre. On pourrait presque dire que le précédent, La fourmi assassine, était une manière d'explorer le, je sais pas si on doit dire le roman noir ou le polar finalement en tant que genre. Comment est-ce que dans la construction de ton œuvre, ces passages par ce qui ne sont pas des parodies à proprement parler, mais en tout cas une manière de jouer avec des codes romanesques peut-être précis, arrêtés. Comment est-ce que ça a participé à la construction précisément de ton identité littéraire, selon toi ?
Alors déjà, identité littéraire, je ne sais pas trop si j'en ai une, hein, je ne me pose pas la question. Mais toujours est-il que chaque livre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une interrogation d'abord de lecture. Avant de commencer un livre, je me dis, qu'est-ce que j'ai envie de lire ? Ou plutôt, tiens, j'ai envie d'écrire ça, et s'il y a quelque chose derrière que je peux lire, eh ben, j'y vais. Il faut que, en même temps que je sois écrivain, je sois un lecteur. Et quand j'ai commencé à écrire mon roman d'aventure, La traversée Mozambique par temps calme, j'y ai vu une opportunité incroyable de lire tous les romans d'aventure que j'avais jamais lus. Moi, j'avais lu Jules Verne, mais j'étais pas un grand lecteur quand j'étais enfant. Moi, je me suis mis à lire à 18 ans, 19 ans. Enfant, je lisais ce que mes parents me mettaient sous la main. Bon, j'avais deux frères qui lisaient énormément, une famille qui lisait beaucoup, mais moi, pas tellement, peut-être par opposition. Je lisais pas. Bon, je jouais énormément. J'étais très enfantin. Je jouais avec des bonhommes. Je faisais plein d'aventures, mais je lisais pas tellement. Mais j'ai lu quand même assez pour avoir des grosses sensations et des émotions de lecture qui aujourd'hui m'habitent encore, notamment Jules Verne, que j'avais adoré quand j'étais enfant. Et donc ça a été un moyen de lire des romans d'aventure. Après Un été sur le magnifique, ça a été un moyen de lire des romans érotiques. Bon, là, pour le coup, c'était pas très intéressant. Alors, je me suis un peu ennuyé. Et ensuite, La fourmi assassine, ça a été l'occasion de lire des romans noirs et des romans policiers. Donc, passionnant. Et le dernier, ça a été l'occasion de lire ce que je vous dis, c'est des relations de voyage, c'est-à-dire des récits d'explorateurs scientifiques qui ne sont pas des écrivains, mais qui, pour moi, appartiennent à un genre particulier qu'il faudrait inventer, parce que, comme je disais, ce sont des poètes, parce qu'ils découvrent la vie avec des yeux neufs. Et voilà, donc tu parlais d'identité littéraire. Un écrivain, pour moi, doit beaucoup lire. C'est la moindre des choses. Pour avancer, pour se réinventer, parce que c'est aussi ça. Tout à l'heure, tu me demandais ce qu'est le travail de remise en question. Un écrivain doit se réinventer. Ça, pour moi, c'est essentiel. Les écrivains que j'adore sont des écrivains qui se réinventent. Je déteste les écrivains qui font les mêmes livres d'un livre sur l'autre. Je ne supporte pas. Même pour les chanteurs, ça m'énerve. Non, un écrivain, il doit se réinventer, il doit faire des livres qui ne se ressemblaient pas, comme un voyageur ne va pas deux fois dans le même pays, quoi. Enfin, c'est pareil. Et donc la question de la lecture est très importante. Parce qu'elle permet de garder un pied sur l'extérieur. Faut pas oublier, quand on écrit, bah, y a des millions de gens qui ont écrit avant nous. Et qu'il y a des bibliothèques qui sont érigées partout dans le monde. Donc il faut arriver à se faire une place là-dedans. Donc pour écrire, il faut essayer aussi de lire ce qui s'est fait pour ne pas refaire la même chose, quoi. Pour essayer de faire différent, pour avoir une petite place dans une bibliothèque entre un tel et un tel, parce que toi, ce que tu as fait, bah, c'est un peu différent. Donc il faut se documenter, quoi. Faut pas. Voilà.
Merci Patrice, en tout cas, de nous parler de ton travail et de littérature avec autant de force. C'est un vrai plaisir de t'entendre. Je vais me tourner vers vous. Je ne sais pas si vous avez quelques questions, si vous souhaitez intervenir, si vous avez des remarques à faire sur ce que vous avez entendu. Oui, madame. On va juste vous donner le micro pour que tout le monde vous entende bien.
Non, c'est juste pour une anecdote.
Ça fonctionne.
Ah bon. Juste pour une anecdote, j'ai acheté ce livre à Lyon, dans une librairie que j'aime beaucoup, et parce que j'avais lu d'autres livres de vous et que vous êtes un auteur que je suis, on va dire, et que je trouve que vous avez une identité littéraire, enfin, on ne peut pas dire un débat là-dessus. Et en fait, donc, je suis rentrée de Lyon, j'habite dans les Gorges du Verdon, je suis rentrée de Lyon, j'ai l'habitude de descendre à Aix en Provence TGV, et comme j'étais dans votre bouquin, je me suis retrouvée à Marseille. Voilà, ça c'était une anecdote pour vous dire que, voilà, que le bouquin...
Vous auriez pu vous retrouver en Alaska, ça aurait été...
Voilà. Voilà, c'est la seule aventure que je me suis autorisée, mais voilà. Mais voilà, le réel...
Mais c'est pour venir ici que vous êtes retrouvée à Marseille ? Vous avez raté la gare ?
Non, j'habite... Non, c'était il y a un mois, enfin, c'était pas tout de suite, c'est quand le bouquin est sorti, enfin, mais j'habite dans la région, j'habite dans les Gorges du Verdon, donc normalement, ma gare, c'est ex-TGV, mais à Marseille, ça va, je me suis...
Voilà. Ce qui prouve que le livre n'est ni lent, ni sans péripéties.
Ouais. Voilà.
Non, évidemment.
Bon, ça, c'était une anecdote. Et puis après, sinon, par rapport à l'identité littéraire, c'est vrai que quand on lit, bon, en plus, là, moi, là, quand je vous entends parler, ben, j'ai l'impression d'être intelligente, parce que toutes les références que vous avez, je les ai eues, moi, en lisant votre bouquin. Je dis, ah tiens, Bouvard et Pécuchet.
Moi, je suis pas intelligent, donc.
Bouvard et Pécuchet, Jacques Lafat, non, mais l'impression que j'ai compris, enfin, voilà, que j'ai des repères dans le bouquin. Et en même temps, moi, je trouve que ça a énormément de personnalité, de... Et puis ce côté à la fois nous emmener dans le merveilleux, mais tout en ayant toujours un pied dans le réel et tout, enfin, bon, qui est effectivement comme dans le nouveau roman, enfin, je trouvais ça bien. Et je trouve vraiment que vous avez une identité littéraire et que, voilà,
merci, creuser madame.
Ça.
Merci, madame. Merci à vous.
Merci.
Est-ce qu'il y a peut-être encore une question, intervention ? Vous aurez l'occasion de façon de retrouver Patrice peut-être pour un temps de discussion un peu plus intime autour des livres. Je voulais peut-être lire, s'il n'y a pas d'intervention, je voulais lire un tout petit passage qui me semble être une bonne manière peut-être de terminer aussi cette discussion. Puis si tu veux peut-être dire un mot de cela, Patrice, je vais lire ce passage, page 304. « Loin d'inquiéter Monsieur Henri, donc, l'entrée dans la vieillesse et les détériorations qu'elle entraîne, l'usure du corps, les hanches moins mobiles, les genoux moins flexibles, l'équilibre moins stable, les gestes moins habiles, la patience plus friable, la fatigue irrécupérable, le cerveau lent, la mémoire qui défaille, la concentration volage, le regard vague, le vague à l'âme qui menace, toutes ces contraintes redoublaient en lui l'envie de vivre et de se sentir encore vaillant, ne serait-ce que du bout des doigts, du bout des ongles. La mort est une aventure, elle se prépare et il compte ne pas sauter d'étape. C'est une belle manière de terminer. Tu veux dire un mot sur ce sujet ?
Non, mais bon, sans m'envoyer des fleurs, je trouve que la fin, elle est vraiment pas mal.
Ouais, t'as raison. Lisez Pluyette, vous pouvez le retrouver là. Merci à toi, Patrice, et merci à vous.
Merci, Yann.